Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission aujourd'hui avec une interview, celle de Emmanuel Courcol pour le film Cessez le feu, film avec Romain Duris, Céline Salette, Grégory Gadebois, qui revient sur la Première Guerre mondiale, ou plutôt bien sûr l'après-Première Guerre mondiale et ses traumatismes chez les soldats. Bonjour Marine.
Bonjour.
De quoi tu vas nous parler ?
Alors moi je vais vous parler d'un documentaire très enthousiasmant qui s'appelle À voix haute, et je vais vous parler également d'un film israélien qui s'appelle Je danserai si je veux.
Et puis, eh bien, Manu, qui n'est pas là avec nous, mais qui, heureusement, a eh bien, enregistré sa chronique, nous parlera de Fast and Furious 8, qui parvient à enlever le côté intimiste et sexiste, nous dira-t-il. Et puis de L'homme aux mille visages, film d'Alberto Rodriguez, qui est une analyse ludique de la face cachée de l'Espagne, qui, avec un montage frénétique, eh bien, porte cette histoire de truand vers des hauteurs dont peu de films peuvent se vanter. Et ça aussi, il le dira. C'est dans Cinérama. Je vous parlerai aussi eh bien, du film Life, origine inconnue, film de science-fiction, thriller, horrifique, qui sort le 19 avril. C'est Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Et on commence donc eh bien, avec Je danserai si je veux. Leila et Salma sont deux jeunes palestiniennes vivant à Tel Aviv. De confession musulmane mais peu encline à vouloir suivre la tradition, elles travaillent et font la fête dans un pays où ni les Palestiniens ni les femmes indépendantes ne sont bien perçues. Un jour, une nouvelle venue s'installe chez elles, c'est Nour, une étudiante très pieuse et très sage, promise à un homme assez traditionnel qui ne voit pas d'un bon œil cette colocation. Une fois n'est pas coutume, Je danserai si je veux est un film qui dépeint la société arabe israélienne. Alors il faut savoir qu'en Israël, c'est un peu la double peine pour les femmes palestiniennes de confession musulmane, puisque même à Tel Aviv, il règne une véritable ségrégation et que leur condition de femme les rend encore plus invisibles et encore plus démunies. La minorité arabe qui y vit n'est considérée ni comme vraiment israélienne ni comme vraiment palestinienne. Et même dans la capitale qui est symbole de modernité, le poids des traditions est lourd et le prix à payer pour ceux qui la transgressent est bien plus cher pour les femmes que pour les hommes. Je danserai si je veux évoque dans une moindre mesure le film The Bubble qui relatait l'hédonisme de Tel Aviv face à la menace incessante des attentats. Mais c'est en plus un bel hommage à la solidarité féminine. Réalisé par Maysalun Hamoud, le film fait partie intégrante de cette nouvelle montée en puissance des réalisatrices en Israël qui, bon, même si elle est salutaire, reste quand même relative, on peut le dire. Le film est également produit par Shlomi Elkabetz, frère de Ronit Elkabetz, décédé l'année dernière, et qui incarnait le renouveau du cinéma israélien, mais également l'engagement pour le droit des femmes. Le film a d'ailleurs beaucoup dérangé au moment de sa sortie, et si la réalisatrice a été récompensée dans divers festivals, elle a aussi été menacée de mort, preuve que son film aborde une vérité qui dérange. Malheureusement, bien que les situations dépeintes dans le film soient fortes, révoltantes, le film n'a pas la puissance d'un Asghar Farhadi, par exemple. Il manque sans doute, pour parfaitement servir le propos, une mise en scène plus inspirée, des dialogues peut-être plus percutants, car même si Maysalun Hamoud filme ses comédiennes avec un amour manifeste, l'ensemble manque un peu d'incarnation.
Et c'est dans les salles actuellement. Et maintenant, eh bien, nous allons parler d'un réalisateur qui s'appelle Alberto Rodriguez. Vous avez peut-être vu La Isla Mínima, c'était son précédent film. Eh bien là, il nous a fait L'homme aux mille visages et c'est Manu qui se charge de nous en parler.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie.
Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil.
L'homme aux mille visages, farce énorme et jubilatoire, est inspiré d'une histoire vraie, ce qui, une fois n'est pas coutume, rend encore plus fascinant le film. Celle de Francisco Paesa, ex-agent secret espagnol, ayant opéré en sous-main lors des attentats de l'ETA. Alors son implication fut un échec énorme et il dut fuir le pays, déchu par les autorités en place. Quelques années plus tard, au début des années 90, il trouve une opportunité de se refaire lorsqu'il reçoit la visite de Luis Roldán, ex-directeur général de la garde civile et de sa femme. Il se voit proposer la coquette somme d'$1 million s'il les aide à planquer 1500 millions de pesetas qui proviennent de fonds publics. Alors Paella élabore un plan dément, non seulement pour s'enrichir, mais aussi pour se venger du gouvernement espagnol. Alors pour la petite histoire, hein, je le rappelle furtivement, le film évoque ce que l'on peut considérer comme l'un des plus grands scandales politiques de l'Espagne. Alors en 93, hein, Luis Roldán, il est donc suspecté d'avoir détourné de l'argent public. En février 94, il quitte le pays clandestinement après avoir reçu une convocation devant le juge. Il disparaît de la circulation pendant 6 mois. Finalement, il est arrêté en février 1995 à l'aéroport de Bangkok dans des circonstances troubles. Il aurait accepté sa reddition contre l'abandon des charges qui pesaient sur lui. Roldán sera finalement condamné à 30 ans de prison et son lourd dossier aura entraîné la démission de membres du gouvernement, dont celui qui aurait pu être président. Alors désolé si je spoil un peu, mes chers auditeurs, mais je ne fais que relater des faits historiques. Alors attention, L'homme aux mille visages est porté par un rythme effréné, presque éreintant, un peu à la manière du récent Sloane, avec qui il partage certains points communs. Alors peut-être trop. Un sentiment de trop plein étouffe d'emblée, d'autant qu'au début, on ne comprend pas toujours très bien ce qui se trame. Passé un temps d'adaptation nécessaire, on parvient à rentrer dans ce thriller politique d'une férocité hallucinante qui ridiculise de bout en bout les institutions en place. Il y a pour le spectateur une véritable jubilation à suivre les aventures rocambolesques d'un personnage qui a arnaqué tout un pays. Alors d'autant que Paella n'est pas décrit comme un type charismatique, il est perçu comme une silhouette passe-partout dont même les motivations nous échappent parfois. Car la thèse de la vengeance, si elle ne peut être exclue, ne suffit pas à cerner Paella, véritable joueur invétéré qui aime créer des fictions de toutes pièces. Au fond, cet escroc peut presque être perçu comme un artiste, ou du moins un illusionniste de haut vol. Alors la plus belle idée du film est de ne pas narrer le récit à la première personne, mais par un témoin présent sur tous les fronts, le meilleur ami de Paella, Jesús Camorrés. Il n'est pas seulement un ami, mais aussi un complice fiable, qui n'a d'ailleurs jamais existé dans la vérité. Cette approche distanciée nous immerge dans une situation d'observateur un peu ébahi par les multiples tours de passe-passe de ce démiurge de l'arnaque. Alors, la grande force de ce thriller politique, agrémenté d'une bonne dose d'humour cynique, outre son effet addictif, résulte dans sa manière d'injecter beaucoup d'ambiguïté et de zones d'ombre dans ce scénario à tiroir moins mécanique que prévu. Car beaucoup de situations acquises pour vraies au début se trouvent contredites par la suite. On est dans une drôle de position, un peu impossible, à devoir démêler le vrai du faux. Alberto Rodriguez continue brillamment son analyse ludique de la face cachée de l'Espagne. Son précédent film, La Isla Mínima, était un polar glauque se situant en Andalousie lors de la période post-franquiste au début des années 80. Le regard acéré et cruel du cinéaste se poursuit avec son second long métrage, extrêmement maîtrisé sur le plan formel, adoptant en apparence un style télévisuel avec ses couleurs ternes tirant vers le marron pour mieux le dynamiser de l'intérieur. Le montage frénétique porte cette passionnante histoire vers des hauteurs dont peu de films récents peuvent se vanter. Et Édouard Fernandez est absolument génial en magicien des temps modernes. La machination est parfois si énorme que l'on ne souhaite qu'une chose, qu'il réussisse son coup. Alors ce qui n'est pas très moral, je le conviens, mais L'homme aux mille visages est espagnol et non américain.
C'était L'homme aux mille visages, donc film remarquable d'Alberto Rodriguez actuellement sur les écrans. Et nous passons à l'interview de cette émission.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
En septembre dernier était sorti Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin, l'occasion de voir comment nos troupes revenues d'Afghanistan passaient par un sas de 3 jours en Crète dans un hôtel 3 étoiles pour débriefer les horreurs qu'ils avaient vues. Le film montrait que selon les individus, le sas était plus ou moins efficace, mais que c'était mieux que rien peut-être. En 1914 justement, il n'y avait rien pour les poilus de retour des combats, pas de psychologue, pas de cellule de crise. Cessez-le-feu d'Emmanuel Courcol part de ce vide, de deux frères qui vivent l'après-guerre de deux manières opposées. L'un a fui la France pour un voyage au long cours en errance, et l'autre s'est prostré dans le silence. Dans ce film, on retrouve Romain Duris en baroudeur, un rôle auquel il n'est pas forcément habitué, et Grégory Gadebois tout en force et en silence. Au casting également, Céline Salette, personnage féminin qui pourrait faire basculer à nouveau le personnage de Duris vers l'amour et vers l'humanité. Les ingrédients sont posés, il y a d'abord le drame de la guerre qu'on voit de manière fugace et terrible, la première séquence est un déluge audiovisuel terrifiant, puis l'indicible une fois qu'on entre dans les années folles et que les hommes et femmes tentent de renouer avec la vie, et puis il y a enfin l'amour qui pourrait sauver ces hommes. Des ingrédients classiques pour un film qui, sur un pareil sujet, ne dispense pas de leçons d'histoire. Ainsi, le personnage de Duris devra continuer le sale boulot et retourner sur les champs de bataille pour déloger les obus qui y sont restés. Voilà, il y a des petites touches documentaires. On écoute tout de suite Emmanuel Courcol, le réalisateur de Cessez-le-feu.
Il aurait fallu qu'on vienne comment ? Les sourires aux lèvres ? Comme si on rentrait d'une partie de campagne ?
Je sais très bien ce que vous avez vécu. Je l'ai vu de près.
Qu'est-ce que t'as vu? Tu y étais dans la tranchée?
Personne sait. Personne ne peut savoir.
Alors Emmanuel Courcol, dans votre film Cessez-le-feu, ce qui peut frapper, c'est l'entrée dans ce film. Parce que, bon, il y a certains cinéastes, pour faire entrer le spectateur dans leur film, ils utilisent un seuil qui peut être doux. Mais vous, vous avez franchement choisi eh bien quelque chose de très très fort. C'est faire entrer le spectateur dans les tranchées avec un plan séquence et puis aussi un déluge de son.
Bah oui, parce que c'est quand même un film sur l'après-guerre et sur le, en gros pour faire vite, hein, sur le stress post-traumatique. Il me semblait indispensable de faire éprouver très vite une expérience de la guerre. Voilà. Donc je stresse un peu le spectateur à l'image, enfin, évidemment, de ce qu'ont subi les poilus en des mille fois plus fort, quoi. Voilà, donc mon idée, ça a été de faire une plongée directe au cœur de la tranchée, puis au cœur du personnage aussi. Et directement dans le chaos guerrier, dans une scène tout à fait paroxystique, avec effectivement un déluge d'obus et une espèce d'effet de saturation et de sidération que je recherche un peu sur le spectateur, qui permet après d'éclairer tout le parcours du personnage principal, interprété par Romain Duris, mais aussi tous les autres qu'on croise qui ont vécu cette expérience-là.
Des guerres bavardes.
4 ans là-bas, ça se raconte pas comme ça.
Et tout ça, ça vient d'où?
De la région de Bonny.
Et vous en aurez d'autres?
Non.
Vous n'en tournez pas là-bas?
Tu veux tirer? Vas-y. Tire.
Faut le prendre comme il est, ton frère.
Alors, il n'y a rien à faire.
Le plus important, c'est qu'il soit en vie.
Heureusement qu'il y a ses cours. Et puis Madeleine.
Il paraît qu'elle est jolie. Jolie.
Mademoiselle!
Il va retrouver la parole. C'est juste une question de temps.
Ah oui?
Bien sûr.
On m'a envoyé, moi aussi.
Ça dépend de vous.
Alors très vite, d'ailleurs, ce qui est doublement frappant, c'est que vous avez cette entrée en matière qui est très forte. Et puis, la deuxième séquence, c'est le grand silence, avec un personnage joué par Grégory Gadebois, qui lui, bon, a une douleur et ne peut plus parler. Finalement, c'est un film qui voudrait parler de la guerre, mais vous utilisez le silence et la langue des signes pour le faire.
Ce qui était intéressant, c'était effectivement de parler de la guerre avec des gens finalement qui n'en parlent jamais. Parce que c'est un petit peu ce qui relie très souvent les anciens combattants, toute guerre confondue, c'est l'impossibilité de raconter cette expérience-là, l'envie de passer à autre chose, en même temps avec une incapacité à passer à autre chose. Et tout ça est symbolisé par ce mutisme absolu de ce personnage, effectivement, qui s'est muré dans le silence et dans le mutisme et dans la surdité. Voilà.
Alors Emmanuel Courcol, il y a ce personnage-là, mais il y en a un autre qui est interprété par Romain Duris, qui lui est un personnage alors qu'on voit dans cette tranchée, qu'on voit effectivement souffrir. Et ensuite, on voit son parcours et ça nous ramène à un autre endroit. Parce que là, avec Grégory Gadebois, on était dans la campagne française, on ne sait pas où. Et maintenant, on est avec Romain Duris en Afrique. Vous avez choisi bien encore un autre lieu.
Oui, parce que lui, c'est un personnage qui a choisi de fuir son traumatisme d'une autre façon. Il le fuit géographiquement en allant très loin, en mettant la guerre et les souvenirs, l'Europe guerrière, le plus loin possible. Donc il part aux colonies, ce qui était un parcours assez finalement classique à l'époque. Et il va rechercher en Afrique un dépaysement, un exotisme, un oubli, une forme d'anesthésie en fait. Hein. Et on le voit évoluer en Afrique, dans une espèce de nomadisme comme ça, un peu une forme de torpeur. Qui endort un peu sa douleur psychique. C'est une autre façon de fuir et de mettre la guerre à distance. Et ça permettait aussi de voir ce personnage, après quelques années de l'expérience africaine, revenir dans une société d'après-guerre, finalement, qui ne l'a pas attendu et dans laquelle il va avoir beaucoup de mal à refaire une place.
Tu voudrais pas
viens en Afrique avec moi. Tu verras des choses dont t'as pas idée.
Je te connais à peine.
Où la France ? On monte au feu !
Attends, frère. Vous savez, Marcel, je le comprends.
Soldats ! Allez, retourne dans ta tranchée, vieux.
Il a du mal finalement à vivre, hein. Il a une espèce de mal de vivre, hein. Il se heurte à plein d'obstacles. Et même cette rencontre amoureuse met beaucoup de temps à l'ouvrir en fait. Et, parce qu'il est empêtré dans cette guerre, ce poids de la guerre dont il n'arrive pas à se délester, il n'arrive pas à s'exprimer, si ce n'est par des comportements violents. Et c'est vrai que l'amour salvateur a beaucoup de peine à aller le récupérer, en fait. Et ça symbolise aussi toute cette part du rapport amoureux qui devient très très compliqué après pour ces hommes qui rentrent de la guerre. C'est tout le travail du retour à la paix, en fait. C'est ça que raconte le film. Et c'est ce qui explique le titre aussi. Voilà. Il est dans une période... C'est après le cessez-le-feu. Et c'est, le cessez-le-feu, c'est l'arrêt des hostilités, mais la paix, après, c'est quelque chose qui se construit sur des années, et parfois même sur une vie. Voilà, c'est sa recherche. Il recherche la paix. Et il a beaucoup de mal à la trouver. Il croit qu'il l'a en lui, parce que c'est un personnage qui se pense fort, volontaire, qui pense maîtriser les choses. Et puis, en fait, il s'aperçoit qu'au moindre incident, en fait, la guerre est là, tapis quelque part en lui, et qu'il demande qu'à ressurgir avec toute la violence qu'il a connue dans les tranchées. En fait.
Pourquoi tu lui fais pas ta demande ?
Je viens avec toi.
C'était Emmanuel Courcol, réalisateur de Cessez le feu, donc film avec Romain Duris, Céline Salette, Grégory Gadebois, film qui sort le 19 avril.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on passe à Voix Haute de Stéphane De Freitas. Ils s'appellent Leila, Eladj et Eddy. Ils habitent en Seine-Saint-Denis et pendant 30 jours, ils vont préparer avec quelques dizaines d'autres élèves le concours Eloquentia, celui qui couronne le meilleur orateur du 93 depuis 2013. Rien à gagner si ce n'est une meilleure confiance en soi et la perspective de nouveaux horizons qui permettraient ainsi peut-être de changer le cours d'une vie. Ils vont être coachés par divers professeurs, auront des cours de théâtre, d'expression corporelle, même de slam, au cours desquels ils apprendront à affûter leur texte et la façon de le dire.
J'aime parler devant les gens, j'aime être écouté, j'aime faire ressentir des émotions.
Vous pensez quoi du fait que je veuille devenir acteur ?
Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux.
Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme.
La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre.
On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout.
Demain, la tête haute, je marcherai fière.
Non, 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 c'est à chier.
C'est nul, c'est parfaitement nul.
Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire.
La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble.
C'est un documentaire très énergique, très intéressant, très réussi que nous propose Stéphane De Freitas. Un documentaire important en cette période un peu étrange où certains candidats à la présidentielle veulent nous faire croire que non, la France n'est pas multiculturelle. À Voix Haute nous prouve qu'elle l'est et de la plus belle des manières en nous prouvant des jeunes adultes issus de tout horizon réunis par l'amour de la langue française. Il faut dire que le documentaire a été co-réalisé par Ladji, membre du collectif Courtrage Mais, collaborateur régulier de Click TV et surtout réalisateur très engagé à qui l'on doit notamment le documentaire 365 jours à Clichy. Alors il y a un côté, c'est vrai, un peu télécroché hein, dans la mise en scène des moments de groupe, des moments de doute dans les portraits des candidats, mais finalement, pourquoi ne pas emprunter à la télé les codes qui marchent hein. Le résultat est très convaincant et ce justement grâce aux portraits que le documentaire dessine. Il y a ceux qui ont une revanche à prendre sur la vie, il y a ceux qui veulent rendre leurs parents fiers alors qu'eux-mêmes ne parlent pas un mot de français. Tous ont une rage de vivre communicative et un optimisme forcené. Ici, la parole est un sport de combat et en même temps, elle rassemble. Et à travers elle, c'est le portrait de toute une génération qui apparaît, une génération qui sait ce qu'elle veut, qui refuse de se laisser enfermer dans les clichés et dans la fatalité. Il y a par exemple Leila, jeune fille d'origine syrienne, qui connaît l'œuvre de Victor Hugo sur le bout des doigts et qui est aussi bien adepte du port du voile que du féminisme. Il y a Eddy, qui est contraint de marcher 10 km tous les matins pour aller à la fac. Il y a Eladj, qui à 25 ans à peine, a déjà créé sa propre association en Afrique. Tous ces portraits forment un film qui fait vraiment du bien, qui dispense un message très fort, plein d'espoir. C'est plus drôle que la plupart des comédies à l'affiche, c'est plus émouvant que la plupart des drames que vous pourrez voir aussi. Je veux pas dire que c'est un film qui laisse sans voix, hein, mais c'est vraiment un film important, vraiment que les gens doivent voir. Mmh. Vraiment, ouais. Eh bien, c'est vrai qu'en 2017, ça fait vraiment du bien de voir un film comme ça sur la France, en fait, sur la France d'aujourd'hui, sur les jeunes d'aujourd'hui qui vont faire la France de demain. C'est vraiment un très beau film.
Et d'après ce que j'ai compris, ça pourrait changer le cours des élections pour certains indécis.
Alors, il est peut-être un peu tard maintenant, mais si, mais si plein de gens avaient pu le voir, oui.
Alors, après Cessez le feu qui sort le 19 avril, un autre film dont nous allons parler sort ce 19 avril, Life, origine inconnue de Daniel Espinosa.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Quel est son niveau d'intelligence ?
Voilà le résumé de Life, origine inconnue. Inutile donc d'aller voir le film, je vous ai tout raconté avec ce petit son. Mais non, en tout cas, il faut oser sortir un film de science-fiction horrifique quelques semaines avant le nouvel opus d'Alien. Il y a de quoi se poser des questions, tant l'attente est grande chez le spectateur et bien de revoir la bestiole mise à l'écran par Ridley Scott. Life, origine inconnue commence très bien et son rythme est celui d'un film qui aimerait prendre son temps et nous donner pourquoi pas une leçon. On bénéficie, ce qui est de plus en plus rare au cinéma, d'un prologue. Une introduction qui dure près de 10 bonnes minutes avant d'entrer complètement dans l'histoire. Nous sommes à bord de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, avec 6 membres d'équipage, et c'est ça qui fait l'objet du prologue. Parcourir l'univers de ces astronautes qui se déplacent en apesanteur, de pièce en pièce, comprendre leurs fonctions et assister à la récupération d'une sonde qui transporte des prélèvements venus de Mars. Ainsi, nous n'aurons pas un 8e passager, le sous-titre du premier Alien, mais un 7e passager qui se profile. Alors, je n'en dirai pas plus sur la physionomie de l'entité qui débarque à l'intérieur de l'ISS. Mais cet aspect du long métrage de Daniel Espinosa est plutôt méritant. On voit des astronautes au boulot et aux prises avec un défi, analyser une forme de vie martienne, soit un grand moment de l'humanité.
L'objectif premier de la mission a été rempli. Nous avons devant nous la première preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Regardez à quelle vitesse il se développe.
C'est vraiment magnifique.
Chacune de ces cellules est une cellule musculaire et une cellule nerveuse.
Il n'est qu'un muscle, que cerveau.
Et à ce moment-là, bien
comme moi, en fait, un peu.
À ce moment-là, la forme est plutôt mignonne, la forme de vie martienne. C'est une sorte de petit scolopendre sur lequel chacun peut encore faire des projections imaginaires. Alors, ça n'a pas le charisme d'un petit chat sur Internet, mais c'est assez inédit. Alors, pour ce passage, Jake Gyllenhaal, qui fait partie de l'équipage, n'intervient qu'en toile de fond, mais Ryan Reynolds, qui fait également partie du casting, a l'occasion de se montrer. Sachant que la forme de vie martienne va se rebeller et zigouiller l'équipage, on comprend l'importance de donner à chacun un rôle qui nous fera regretter sa disparition. Alors, à cet égard, les codes du film de science-fiction horrifique sont respectés, victimes qui disparaissent une à une, larmes, interrogations, actes de bravoure, décisions en dépit du bon sens, tout y passe et j'ai envie de dire rien de nouveau si ce n'était une scène assez inattendue qui se déroule en dehors de l'ISS et qui ne se termine pas comme on s'y attendrait. Alors c'est donc quand Life, origine inconnue, bascule dans l'horrifique et la chasse à l'homme qu'il est moins intéressant et devient un film plus classique de série B de science-fiction. Alors une seule question tire le scénario un peu simpliste. Que faire de la forme de vie venue de Mars ? Autant dire que je n'en dirai pas plus, mais je révélerai tout de même que cette forme de vie, qui devient plus une bestiole à mesure qu'elle se nourrit, n'est pas la meilleure idée du film. Peu de projections à faire sur cette alien qui n'est pas loin d'être juste moche, en fait, tant au niveau des formes que des couleurs. Jamais cette créature n'aura la force de celle d'Alien qui, à n'en pas douter, effacera Life, origine inconnue. Honnête film de série B, servi par un casting alors qui n'a pas le temps de montrer grand-chose. Il n'y a pas des effets spéciaux grandioses non plus. On est quand même à bord de la station spatiale ISS, et ce qui est plutôt intéressant, c'est que le réalisateur, dans ce fameux prologue, cherche complètement à changer notre repère spatial, parce que quand on est en apesanteur, on peut être en bas, en haut, et à ce moment-là, les repères du spectateur sont complètement perdus. Mais ça, c'est plutôt intéressant. Donc il y a quelques touches naturalistes, finalement, de la vie. Qu'est-ce que la vie dans l'espace, la vitesse, la pression, le son, et puis comment un corps peut être à l'intérieur d'une capsule. Mais il a aussi pris quelques libertés, le réalisateur. Voilà. Vous pouvez quand même tenter ce petit voyage Life, origine inconnue, avant d'attaquer le gros morceau que sera Alien.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et c'est presque sans transition qu'on va achever cette émission avec le gros morceau de l'émission, peut-être. Il y avait l'interview qu'on a écoutée, mais il y avait aussi la chronique de Fast and Furious par Manu.
Il y a des milliers de voitures dans cette ville. Et là, elles m'obéissent toutes.
Maintenant, je sais ce que ressentent les flics qui nous prennent en chasse. Fred, Fred, Fred!
Je vais rassurer l'immense majorité des néophytes qui n'ont jamais vu un seul Fast and Furious, franchise bancable initiée par Rob Cohen au début des années 2000. Les années défilent et on en est déjà au 8e. Alors il n'est pas utile, et je ne sais pas si ça va vous surprendre, d'avoir vu les 7 précédents pour comprendre les tenants et aboutissants de ce Fast and Furious 8 qui débute sur les chapeaux de roue avec une intro à Cuba rappelant les premiers opus. Alors des nénettes à moitié à poil qui se trémoussent sur du R&B pourri, une course de voiture entre deux gros bras pour savoir qui a la plus grosse et la plus rapide, cette entrée en matière est tellement grossière et outrée que l'on frise la parodie. D'autant que la suite bifurque ouvertement vers le thriller d'espionnage à l'échelle mondiale, quelque part entre Mission Impossible et surtout le récent XXX avec déjà Vince Diesel, le regard le plus bovin de l'histoire du cinéma et dont je me suis fait une spécialité ces dernières années, ayant chroniqué ici même presque tous les films qu'il a tournés. Alors notamment le précédent, Fast and Furious 7, qui malgré la présence de James Wan à la réalisation, était une horreur. Alors le scénario n'est pas une folle complexité, mais au moins il tient la route un minimum pour un film censé être centré sur les grosses caisses. Une mystérieuse femme interrompt la lune de miel de Dom et Letty, entraînant ainsi Dom dans un monde de criminalité où il va se trouver forcé de trahir les siens. Pourquoi ? Dom a un gosse, que détient la méchante de l'histoire, incarnée par une très convaincante Charlize Theron, le regard tranchant et implacable. Elle campe une anarchiste qui veut déchaîner le chaos mondial parce que l'homme n'est pas raisonnable. Elle non plus, mais les illuminés s'en rendent rarement compte.
J'aimerais que tu me dises, Dom, quelle est la meilleure des choses dans ta vie ?
La famille.
C'est pas vrai. Si tu veux bien être honnête, ce sont les 10 secondes comprises entre le début et la fin au cours desquelles tu ne penses à rien. Aucune famille. Aucune obligation, plus que toi. La liberté. Entre nous, tes derniers numéros de Robin des Bois des temps modernes, genre je vais sauver le monde, franchement. C'est tout sauf toi. Assume ce que tu es. Pourquoi être libre uniquement pendant 400 mètres quand tu peux l'être tout au long de ta vie ?
Alors heureusement, l'équipe de Dom, sans Paul Walker, décédé lors du 7e opus, va tout faire pour empêcher l'apocalypse et comprendre les raisons qui ont poussé Dom à se détourner des siens. Ça pourrait être shakespearien, mais nous ne sommes pas là pour réfléchir. Alors en avant pour 2 heures d'explosion, de tôle froissée, de vrombissement de moteur, de castagne chorégraphiée avec punch. Bref, laissez votre cerveau à l'entrée et venez contempler des grands enfants s'amuser à l'écran et faire joujou avec la technologie de pointe. Ceci dit, le réalisateur F. Gary Gray, en évinçant le côté frime et sexiste, et en agrémentant l'ensemble d'une bonne dose de second degré, parvient à rendre comestible ce film d'action efficace qui possède au moins une séquence d'anthologie, des voitures téléguidées sans conducteur qui créent un carambolage gigantesque en pleine ville. Un grand moment furieux, de n'importe quoi régressif, atteignant son point culminant lorsque les voitures tombent carrément des immeubles d'une certaine hauteur. Bref, Fast and Furious 8, malgré sa durée excessive, ça révère à mon goût le meilleur film de la franchise, le plus éloigné aussi de son concept initial. Et sans doute le seul qui peut se vanter de posséder un script un peu plus complexe que d'habitude. Ce blockbuster aussi décérébré que jouissif bénéficie aussi d'un casting impeccable, si l'on excepte bien sûr Vince Diesel. Alors je citais plus haut Charlize Theron, très crédible en méchante tout droit sortie d'un James Bond, mais aussi dans un registre plus pince sans rire, l'apparition délirante de Kurt Russell, qui est assez jubilatoire, et la prestation de The Rock, très amusante. À aucun moment d'ailleurs ce personnage, cette caricature physique de Jojo le gros bras, ne semble prendre son rôle au sérieux, du coup il y injecte une dose d'humour et une décontraction bienvenue. Et Jason Statham, pas grand acteur, mais très vif sur le plan gestuel et se bat comme un diable. Bref, je pensais descendre le film et me voilà à lui trouver des qualités. Alors suis-je tombé sur la tête ? C'est la grande question.
Oh, ça craint !
Voilà, c'était Fast and Furious 8 et on retrouvera eh bien Manu qui nous parlera de l'opus numéro 9 qui sortira prochainement.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Eh bien, Marine, la semaine prochaine, nous aurons peut-être une interview encore.
Oui, oui, c'est même sûr. Un tabou de Rim Kérissi, réalisatrice, actrice principale de la petite comédie romantique trop sympathique qui s'appelle Le Jour J.
Et puis, eh bien, on parlera sans doute aussi des Gardiens de la Galaxie, film qui va sortir.